Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Mouhamadou Oumfa.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, gros plan sur la rupture des relations diplomatiques entre le Mali et l'Ukraine. Les autorités maliennes de transition ont annoncé dimanche la décision de rompre les relations diplomatiques avec l'Ukraine. Cette décision intervient après qu'un haut responsable ukrainien a, selon Bamako, avoué l'implication de Kiev dans une lourde défaite de l'armée malienne et du groupe paramilitaire russe Wagner lors de combats avec des séparatistes et des djihadistes. Le contexte, les raisons et les implications de cette décision, c'est dans le reportage de notre correspondant à Bamako et l'analyse de notre invité Ali Tunkara, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Nous irons ensuite en Mauritanie où le désert avance dans l'oasis d'Azougui à environ 450 km au nord-est de la capitale Nouakchott. L'oasis, principale source de revenus des habitants, a perdu 6000 palmiers. Le fait marquant de la semaine, c'est la fin du retrait des soldats américains du Niger avec la cession d'une base militaire à Agadez. Nous en parlerons avec le rédacteur en chef de Canal 3 au Niger. À suivre enfin le reportage de Tidiane Ouédraogo à Koro dans le centre du Mali. Là-bas, les choses reviennent progressivement à la normale après l'accord de paix signé entre les communautés Peul et Dogon. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage d'information et de découverte dans le Sahel. Le Mali a annoncé dimanche rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Cette décision intervient après que Youri Pivovarov, ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, a selon Bamako avoué l'implication de Kiev dans une lourde défaite de l'armée malienne et du groupe paramilitaire russe Wagner fin juillet lors de combats avec les séparatistes et des djihadistes. Cette rupture est diversement interprétée au sein de l'opinion malienne, comme on va le voir dans ce reportage de notre correspondant Mohamed Danyoko.
Les déclarations de soutien au groupe terroriste de l'ambassadeur ukrainien au Sénégal au lendemain des violents combats du 28 juillet pour le contrôle de Tinzawaten, où l'armée malienne, dans un communiqué, a admis avoir perdu beaucoup d'hommes, ont poussé les autorités de la transition à rompre les relations diplomatiques avec ce pays au grand bonheur de certains Maliens.
Quand on sait que le problème du Mali aujourd'hui, c'est l'insécurité, c'est la lutte contre le terrorisme, et qu'un pays aussi puissant que d'autres puisse soutenir les terroristes, vraiment c'est inquiétant. Le Mali a pris la bonne décision de rompre. Moi, je salue cela.
C'est le propos de Andriy Youssov, porte-parole de l'Agence ukrainienne de renseignement militaire, ont été soutenus par l'ambassadeur de ce pays au Sénégal. Pour d'autres, il fallait prendre le temps de l'analyse avant une telle décision.
Je crois que ça a été très 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 rapide. Un pays, je crois qu'on a des liens diplomatiques depuis des années. Et en un clin d'œil, vraiment rompre la diplomatie, pour moi, c'est aller vite en besogne. Bon, comme c'est des autorités, ils ont leurs raisons que nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Entre deux pays, je crois qu'ils étaient pendant des années, et puis les relations étaient escalantes jusque-là. Mais je crois que pour moi, ils devraient au moins attendre, étudier tous les contours avant de prendre cette décision diplomatique.
Docteur Amadou Touré, enseignant-chercheur en sciences politiques à la Faculté des sciences administratives et politiques de l'Université de Bamako, estime qu'en prenant cette décision, le Mali s'inscrit de facto dans un conflit géostratégique qui va au-delà de ses frontières.
Le Mali, en prenant cette décision, c'est tout à fait normal parce que le Mali s'aligne d'office derrière la Russie. Et qu'est-ce qui se passe? Connaissant bien la puissance de la Russie face à l'Ukraine, et comme c'était dit, nous sommes dans une guerre, c'est-à-dire où il faut trouver des moyens pour nuire à l'adversaire. Donc, comme on s'est déjà dit qu'avec la perte du Sahel par la France, Et c'est tout à fait normal que les Ukrainiens rentrent dans une position géostratégique pour nuire à la Russie. Maintenant, le Mali rentre d'office avec cette déclaration pour dire que nous soutenons la Russie en rompant nos relations avec l'Ukraine.
Si la presse malienne salue l'action du Sénégal qui a convoqué l'ambassadeur ukrainien au Mali, nombreux sont ceux qui, comme le docteur Touré, dénoncent le silence de la classe politique et de la société civile face à ce qu'ils qualifient d'affront. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Merci beaucoup Mohamed Danyoko, correspondant de VOA Afrique au Mali. Mohamed, que nous retrouvons tout de suite, qui nous attend à Bamako. Salut Mohamed.
Salut Mohamed Oumfa, salut.
Alors, on va tout de suite vous demander, hein, vous qui êtes au Mali, quels sont les symboles et les instruments visibles de la coopération entre l'Ukraine et le Mali? Est-ce qu'il y a par exemple une ambassade au Mali? Est-ce qu'il y a des investisseurs au Mali? Est-ce qu'il y a des Ukrainiens qui vivent au Mali? Quelles sont les manifestations de cette relation là-bas?
Pas de symbole visible à première vue, hein. Pas de symbole visible, pas de forte délégation ou bien forte communauté ukrainienne au Mali, pas d'ambassade. Et donc, c'est une relation diplomatique qui s'arrête certes, mais au Mali, la présence ukrainienne, si on peut en tout cas en parler, c'était peut-être au niveau des forces des Nations Unies, d'accord? Dans les forces des Nations Unies, il y avait des contingents ukrainien, mais sinon que dans la société, de façon générale, en termes de symbole, l'Ukraine n'est vraiment pas visible au Mali. C'est pourquoi d'ailleurs, on a vu que les autorités ont tout de suite rompu, il n'y a pas eu d'appel d'ambassadeur, il n'y a pas eu de révocation d'ambassadeur parce qu'il n'y en a pas. Et donc, c'est vraiment, voilà, c'est la situation, il n'y a pas de symbole assez visible ou même de communauté forte, communauté ukrainienne, qu'on peut voir au Mali pour voir un peu la manifestation de ce qui a pu se passer après cette décision des autorités de la transition malienne.
Alors, vous dites qu'il n'y a pas d'ambassade, il n'y a pas une forte communauté. Alors, comment concrètement, selon vous, va se traduire cette rupture? Qu'en dit-on à là-bas, à part les autorités et peut-être dans la presse?
Et dans la presse aussi, on ne se penche pas plus que ça sur cette question. Aujourd'hui, dans la presse, quand depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, dans la presse, on ne fait que saluer en tout cas la décision des autorités sénégalaises qui ont en tout cas à leur niveau appelé en tout cas et entendu l'ambassadeur ukrainien chez eux. Et la presse aussi a salué l'action de la société civile sénégalaise qui avait pris d'ailleurs les devants même avant les autorités pour condamner, n'est-ce pas, cette voix, en tout cas ces voix ukrainiennes-là qui ont ouvertement quand même soutenu, en tout cas affirmé avoir en tout cas apporté en termes d'informations des appuis aux terroristes avec lesquels les forces armées sont, n'est-ce pas, en combat depuis le 24 juillet dernier. Donc dans la presse, on ne se pose pas plus que ça sur cette question, à part que on met plus en avant le communiqué du gouvernement et on salue surtout l'action du Sénégal. Voici concrètement ou même de façon générale ce que la presse en dit de cette décision-là.
Merci beaucoup Mohamed Danyoko pour ces nouvelles fraîches depuis Bamako. Et à Bamako justement, on retrouve Ali Tunkara, il est directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Bonsoir Ali Tunkara.
Bonsoir.
Alors, comment est-ce que vous avez accueilli la décision de Bamako de rompre les relations diplomatiques avec l'Ukraine? Que pensez-vous des raisons invoquées par les autorités maliennes de transition?
À la lecture du communiqué, on s'attendait à une telle rupture. Lorsqu'un État souverain affirme publiquement d'accorder son soutien à des groupes terroristes ou à des groupes anciennement indépendantistes, naturellement, au regard des conventions dont tous les États souverains sont parties prenantes, il était la responsabilité de l'État du Mali, justement, non seulement d'affirmer son mécontentement vis-à-vis de ses soutiens factuels ukrainiens aux terroristes dans les régions dites nord du Mali, mais dans le même temps, une telle rupture rappelle à combien, au-delà de la tension aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, le dossier malien devient quand même un enjeu géopolitique. Il était difficilement imaginable que l'Ukraine allait franchir autant de kilomètres pour venir combattre la Russie à travers l'engagement malien contre le terrorisme. Naturellement, cette rupture du point de vue diplomatique est tout à fait logique à la suite d'un tel soutien qualifié par Bamako inacceptable.
Oui, alors, Ali Tunkara, la décision du gouvernement de transition de la République du Mali de rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine est à courte vue et précipitée. C'est ce qu'a fustigé le ministère ukrainien des Affaires étrangères dans un communiqué. Alors, est-ce que Kiev n'a pas quelque part raison? Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de poser des actes moins graves d'un point de vue diplomatique pour exprimer son désaccord par rapport au point de vue de ce diplomate, de ces responsables-là?
Alors, à l'analyse, l'attitude de Kiev dans n'importe quel pays souverain, naturellement, ne pouvait avoir comme réponse que cette rupture diplomatique. Rappelons quand même que, même si les Nations Unies n'ont pas de définition consensuelle autour du terrorisme, mais tous les États membres s'accordent sur le fait que la prévention et la lutte contre le terrorisme reste la responsabilité de tous les États membres de Nations Unies. De ce fait, l'Ukraine, en affichant ainsi son soutien à des groupes radicaux violents, naturellement, pour l'État du Mali et même aux yeux du droit international humanitaire, l'Ukraine a quand même franchi des pas qui pourraient permettre de qualifier en toute objectivité le communiqué du gouvernement malien d'un communiqué tout à fait qui s'inscrirait dans la suite logique de ces conventions internationales, dans la suite logique justement de cette nécessité que toute l'humanité a aujourd'hui de lutter efficacement contre la nébuleuse terroriste. Donc, de facto, cet agir ukrainien ne peut être compris que par des réactions de ce genre par l'État du Mali.
Oui. Alors, Ali Tunkara, notre correspondant au Mali, disait tout à l'heure qu'il n'y a pas véritablement de symbole visible d'ambassade, de forte communauté d'investisseurs ukrainiens. Et probablement, c'est le cas aussi là-bas, en Ukraine. Quelles pourraient être les conséquences, selon vous, de cette rupture des relations diplomatiques?
Alors, objectivement, sur le Mali, les conséquences sont peu visibles, même si quelques étudiants maliens sont aujourd'hui dans des universités ukrainiennes à titre privé, car à ma connaissance, l'Ukraine n'offre pas de bourse à l'État du Mali. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre d'étudiants maliens qui évolueraient dans le système éducatif ukrainien. Maintenant, ce sont plutôt des conséquences qui vont mettre l'Ukraine dans une position relativement délicate vis-à-vis d'un certain nombre de ses partenaires. À défaut d'entendre certaines chancelleries occidentales de condamner publiquement cette de l'Ukraine dans le dossier malien, certains parlementaires, les semaines, voire dans les mois à venir, des soutiens ukrainiens pourraient aider à leurs responsables politiques de relativiser leur soutien étant clairement engagé dans un soutien au terrorisme.
Oui, alors Ali Tunkara, en une minute rapidement, est-ce que vous pensez que le conflit russo-ukrainien pourra s'exporter ou alors avoir des conséquences dans le Sahel et en Afrique en général? Rapidement.
Il est déjà, lorsqu'on regarde aujourd'hui la déclaration de l'État du Mali, de même également les différents commentaires autour de cette immixtion de l'Ukraine dans les dossiers maliens, naturellement, la compétition entre la Russie et l'Ukraine, elle est tout à fait présente dans le Sahel. À quelle compétition ne pourrait pas laisser le reste du Sahel tout à fait innocent?
Merci beaucoup Ali Tunkara. Merci, je rappelle que vous êtes directeur du Centre des études stratégiques au Sahel. Merci d'avoir été l'invité de Focus Sahel. Et pour terminer rapidement sur le sujet, deux commentaires Facebook. La Sinasori qui dit le Mali soutient l'annexion de l'Ukraine et l'Ukraine aussi soutient l'indépendance de l'Azawad. Le Mali a engagé des mercenaires russes pour tuer les Maliens du Nord et les Touaregs ont aussi engagé des mercenaires ukrainiens. Ces mercenaires contre mercenaires, c'est son avis. Et puis Trésor qui a dit l'Ukraine fait très bien et doit tout faire pour contrer la propagande mensongère et criminelle de son agresseur et bourreau, la Russie, dans notre pays. L'intox du Kremlin est une peste et une pollution, une immoralité, une indécence, un manque total de scrupules choquants. S'il est exact que les Ukrainiens ont aidé à battre ces mercenaires, que l'Ukraine soit remerciée et félicitée. Et les Azawadiens sont à féliciter mille fois. S'il est exact qu'ils ont converti à l'islam, ces personnes personnes tombées entre leurs mains. Merci d'avoir envoyé vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. La suite, c'est dans quelques instants.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Rendons-nous maintenant en Mauritanie, plus précisément dans l'oasis d'Azougui, qui se situe à environ 450 km au nord-est de la capitale Nouakchott. Le désert avance et les palmiers dattiers se font peu à peu engloutir par le sable. L'oasis, qui est la principale source de revenus des habitants, a perdu 6000 palmiers, ce qui inquiète évidemment la population qui cherche des solutions. Les précisions avec Claire Morin-Gibourg.
À Azougui, près d'Attar, les habitants se préparent à la guetna, la récolte des dattes. Ces petits fruits sucrés sont la principale richesse de la région, mais l'avancée du désert semble inéluctable.
Je suis désolé de voir ce paysage qui a déplacé tout le monde sur l'autre côté à cause de ce sable et qui pousse les gens de chercher ailleurs. Parce qu'ici, on ne peut plus avoir une récolte. Ici, on vit essentiellement sur les palmiers. Quand ils sont menacés, nous tous nous sommes menacés.
L'ancien maire du village de Meret, Amou Déa, se rappelle.
Cet endroit était autrefois rempli de palmiers. Si vous regardez là-bas, il y avait des palmiers partout. Aujourd'hui, il n'en est plus rien. Les propriétaires de ces palmiers sont toujours là, mais ils ont tout perdu.
Amoudéa s'inquiète. Il faut trouver une solution rapidement, car sinon, les gens iront vivre ailleurs.
L'eau sera l'un des problèmes dans les 50 années à venir, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Le couvert végétal est très chétif en Adrar, par rapport, malgré qu'on a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup de gaspillage, je dirais pas de gaspillage, mais une perte énorme d'eau qui arrive. On ne sait pas la magasiner, on ne sait pas la conserver.
L'ancien maire, Amou Déa, avance une idée. La construction d'un barrage permettrait de retenir l'eau indispensable pour replanter d'autres palmiers permettant aux habitants de pouvoir vivre de leur récolte de dattes.
À présent, le fait marquant de la semaine, l'armée américaine a fermé lundi sa dernière base au Niger, à Agadez. Cette fermeture est conforme aux exigences des autorités de la transition du Niger sous la direction du général Abdourahmane Tiani. Après le départ de près de 800 soldats début juillet de la base de Niamey, il ne restait dans le pays que quelques 200 éléments américains logés dans cette importante base située dans le nord du Niger. Pour en parler, retrouvons à Niamey Kenny Amadou, il est le rédacteur en chef de Canal 3, une station partenaire de VOA Afrique. Salut, Kenny Amadou. Kenny Amadou?
Oui, je suis à l'écoute.
Voilà. Alors, Kenny Amadou, je le disais, hein, les derniers éléments de l'armée américaine ont quitté le Niger hier. Comment est-ce que ce départ a été accueilli là-bas? Que dit-on dans la rue et dans les médias?
Au fait, dans la rue de Niamey, cela a sonné comme un non-événement, puisque depuis que le CNSP justement a décidé de mettre en, en tout cas de comment dirais-je, demander en tout cas la fin des accords militaires. Et le sujet n'était plus d'actualité, les gens sont passés, les gens attendaient. La seule chose qui a marqué au fait ce départ, c'est que ça s'est produit plus rapidement que les forces militaires françaises, donc 40 jours d'avance pratiquement par rapport au calendrier. Et à Agadez, où nous avons un correspondant également, les sentiments sont des sentiments de joie, des sentiments de soulagement de la fin de cette coopération qui était au début axée sur la lutte contre le terrorisme, mais qui finalement, pour l'opinion publique nationale de Niamey à Agadez, n'a pas tellement porté ses fruits.
Alors, Seni Amadou, question d'ordre pratique, vous dites qu'il n'y a pas eu vraiment d'intérêt autour, mais vous, à Canal 3, vous êtes partenaire de VO Afrique, vous, à Canal 3, est-ce que vous avez réservé des espaces à cela? Comment est-ce que vous avez traité ce sujet d'un point de vue éditorial?
D'un point de vue éditorial, nous avons juste couvert le factuel, c'est-à-dire l'événement à travers notre correspondant à Agadez, qui était sur les lieux, qui nous a relayé, en tout cas, les temps forts de la cérémonie de rétrocession de cette base 201 d'Agadez par les forces militaires américaine aux forces militaires nigériennes. Il n'y a pas eu un autre espace spécial puisque véritablement c'est, la question n'est pas d'actualité. Ce qui est plus d'actualité, c'est véritablement le dernier entretien du chef de l'État. Et dans cet entretien, en tout cas, il a été clair dans le sens où il a dit qu'ils feront tout, ils seront en train de travailler pour que ceux qui sont partis par la grande porte ne puissent pas revenir par la petite fenêtre. Donc, du coup, le message est clair que la page de cette coopération est tournée et qu'il faut maintenant réfléchir à d'autres partenaires ou bien, en tout cas, à d'autres façons de coopérer avec que ce soit l'Amérique ou bien, en tout cas, l'Occident.
Alors, Seni Amadou, est-ce qu'on sait ce que deviendra cette base d'Agadez ou alors cet espace qu'occupait l'armée américaine? Est-ce qu'il y a un plan? Est-ce que les autorités ont fait des annonces à ce sujet?
Il n'y a pas eu d'annonce spéciale. Je viens d'échanger avec notre correspondant à Agadez et à son niveau, en tout cas, rien n'a filtré par rapport à ce qui va venir.
Entre le Niger et les États-Unis, est-ce qu'il y a, après ce départ, est-ce qu'il y a, que deviendra cette coopération? Est-ce que sur le plan économique, ça aura des conséquences?
Sur le plan économique par rapport à la question, en tout cas au niveau d'Agadez, pas tellement, puisque ce qui a poussé même une grande opinion de la population d'Agadez à soutenir la décision du CNSP, c'est que économiquement et au-delà de ça, la base américaine est très indépendante de la vie socio-économique de la région. Mais toujours est-il que hier, le président du comité de désengagement, le colonel-major Mamansani Kiaou, a précisé que la coopération militaire avec les États-Unis vont continuer. C'est pas la fin de cette coopération, c'est juste une page qui est tournée et que dans ce sens, des discussions seront menées avec les Américains pour voir dans quel cadre, dans quelle formule ou quelle configuration va prendre la prochaine collaboration ou coopération entre les deux armées. Dans l'intérêt, il a bien précisé dans l'intérêt des deux peuples et des deux pays.
Mais on imagine qu'avec ce départ de l'armée américaine, c'est la Russie qui se frotte les doigts. La coopération militaire, rapidement, en une minute, est-ce que cette coopération va profiter à la Russie?
Véritablement, oui, puisque l'axe Niamey-Moscou est en train de se renforcer. Il y a quelques mois, il y a eu du matériel et de l'équipement russe qui est venu. En plus de cela, il y a eu des instructeurs russes qui sont à Niamey. Et aujourd'hui, au niveau de la Confédération, puisque aujourd'hui à Niamey, la question de la souveraineté nationale est aussi lue sous l'angle de la Confédération AES. Et nous savons depuis quelques jours, avec les opérations militaires qui se déroulent déroule au nord Mali, combien l'armée nigérienne aussi s'est engagée dans ce combat, et nous savons également que là-bas également les Russes sont en première ligne par rapport à ces questions. Donc véritablement on pense bien que les Russes sont en train de se frotter les mains, et que ça ne fait pas même quelques mois également, il y a quelques mois de cela, une maison russe a été ouverte à Niamey pour encore davantage renforcer, voilà, cette fois-ci les relations culturelles, socio-culturelles également. Voilà. Donc,
merci beaucoup, Sémi Amadou, c'était un plaisir. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous avoir. Vous êtes le rédacteur en chef de Canal 3, une station partenaire de VOA Afrique. Rendons-nous maintenant au Mali pour la note positive de cette édition. Depuis l'accord de paix entre les communautés Peul et Dogon dans le cercle de Koro au Mali, des signes encourageants de retour à la coexistence pacifique sont observables dans cette localité de la région de Badiangara. La réouverture des marchés et des routes, le retour de certaines populations dans leur village d'origine, ainsi que la libre circulation des biens et des personnes témoignent de ces progrès. Ces avancées ont été rendues possibles grâce à une médiation locale efficace. De Koro, la correspondance de Tidiani Ouedraogo.
Frontalier avec le Burkina Faso, le cercle de Koro a été longtemps un foyer de violence entre communautés Peul et Dogon. Attaques des villages et hameaux, certaines images prouvent à suffisance l'ampleur de la violence, comme ici dans ces hameaux où la population a fui les exactions.
Pendant la crise, il était difficile de faire paître le bétail en raison des attaques, et nous avons également perdu des animaux ainsi que des connaissances durant cette crise.
Face aux attaques persistantes dans la région qui ont causé de nombreux décès et des déplacements, des volontaires se sont mobilisés pour trouver des solutions. Après plusieurs mois de rencontres entre les communautés, sous l'égide de l'association Monobim, les différentes parties ont accepté les cessez-le-feu.
L'idée de négocier est venue de l'association Monobedo. Nous avons bénéficié du soutien des groupes d'autodéfense et nous avons accepté de déposer les armes. Grâce à la volonté de tous, nous sommes parvenus à cet accord. Nous avons vu des bienfaits de cet accord et je demande aux autres de s'inspirer de l'exemple de Koro.
Une situation qui favorise la libre circulation des personnes et de leurs biens, la réouverture de certaines foires hebdomadaires et le retour de certains déplacés.
Avec le maire, nous sommes en train de travailler pour faciliter le retour de certains déplacés qui sont à Sévaré. Je sollicite l'accompagnement des autorités pour réhabiliter nos maisons et nos points d'eau.
Sous les hangars en train de confectionner des nattes traditionnelles, cette déplacée d'Ombori se sent heureuse à Koro malgré ses conditions de vie difficiles.
C'est dur pour moi ici. Mais je préfère rester. Je sollicite de l'aide pour atténuer ma souffrance.
Après la signature de l'accord de paix, un comité de suivi a été mis en place pour suivre les engagements des différentes parties. Tidiani Ouedraogo pour VOA Afrique, Koro.
Et c'est avec ce reportage de Tidiani Ouedraogo à Koro que nous mettons un terme à cette édition de Focus Sahel. Merci au public qui nous a accompagnés dans ce voyage. Merci également à nos invités, notamment Ali Tunkara, qui a partagé avec nous son expertise. Enfin, je tiens tout particulièrement à saluer nos correspondants qui nous ont envoyé les nouvelles fraîches de la région. Mohamedou Oumfa à ce micro. Un merci à Trésor Matondo et Lionel Gaïma qui ont permis la production de cette émission. Nous vous remercions d'avoir écouté et regardé Focus Sahel. À très bientôt sur ces mêmes antennes. Au revoir.
C'était Focus Sahel. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'une des régions les plus complexes de la planète.
Vos points de vue, vos défis, vos récits et vos contributions sont les bienvenus.
Laissez-nous vos commentaires sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.